Chapitre 11. Lisa Gherardini, modèle. Ruspan se releva et brossa son veston tout fripé d'un geste de provincial maladroit en bonne société. Il s'inclina légèrement devant Isabelle, qui le contemplait avec des yeux hagards. Puis il tira de sa poche deux petits filins d'acier et se mit en devoir d'attacher les poignets et les chevilles de Raoul, qui haletait, le souffle coupé. « Voleur ! Escroc ! » disait maître Ruspan tout en s'affairant. « Tu n'as pas honte de voler les gens comme ça ? Alors comme ça, on enlève les Jocondes maintenant. Le bracelet de la duchesse de Krantz ne te suffit pas. Il te faut aussi la Mona Lisa 1503 et la Joconde modèle 1895 avec. Vilain personnage ! Heureusement qu'il y a encore sur Terre des citoyens honnêtes et soucieux de la morale publique. Où irions-nous ? Mais vois-tu, mon cher Raoul, tu étais trop sûr de toi. Tu crois trop en la bêtise de l'humanité, et tu crois que ton nom de Lupin te sauvera toujours de tout embarras. C'est ridicule, mon vieux, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. À un moment ou l'autre, on finit par rencontrer sur son passage quelqu'un qui ne marche pas avec ses combines, et, paf, on se ramasse un petit coup sur le sternum, dont on a soi-même le secret, n'est-ce pas, mon bon Lupin? C'est un coup à toi, ce que tu as attrapé là, et tu dois savoir que ça fait mal. Mais c'est moins mortel que ton couteau de cuisine. « Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? » balbutiait Raoul. « Non, là tu en demandes trop, mon bon Lupin. Je te laisse ma carte de visite dans la poche, pour que tu joues un peu aux anagrammes. Maître Élie Ruspan, notaire et expert en art. » Isabelle était confondue. Elle avait tout compris. Elle entrevoyait maintenant toute la vérité. « Nous n'avons pas beaucoup de temps pour causer, mon cher Lupin, » dit encore maître Ruspan en farfouillant dans les poches du prisonnier. Il en tira un portefeuille qu'il déposa sur la table. Il trouva aussi le papier chiffonné qui avait servi de brouillon au télégramme. « Voyons ceci. » Il le déplia, le posa sur la table et s'assit. « T.R.FF.L. »« Eh bien, voilà qui intéressera fort cet excellent Béchou, » fit Ruspan joyeusement. « Mais qui êtes-vous ? Seul un homme ? Seul ? Tu l'as presque dit, Bouffi !» Puis se tournant vers Isabelle qui savait, les yeux rivés sur lui. « Ce monsieur a nom Jacques Froment. Je l'accuse du vol du bracelet de la duchesse et de l'enlèvement de Mademoiselle Levallier. Je l'accuse surtout d'avoir usurpé une identité qui n'est pas la sienne. Cet homme a volé le nom de quelqu'un qui vivait paisiblement, et essayait de faire le bien pour réparer le mal qu'il avait commis dans le passé. Ce quelqu'un s'était promis de ne plus se faire remarquer. Mais du jour où on utilisait son nom pour dévaliser le patrimoine national et maltraiter une jolie femme, alors là, il fallait faire objection. Bien, cela m'a rajeuni d'une dizaine d'années. Je dois m'en aller maintenant. Mademoiselle Isabelle, j'ai un certain nombre de choses à vous confier. Il s'assit devant elle. Elle lui tendit les mains avec affection. Il les saisit dans les siennes et sourit un peu gêné. Non, non, je veux dire que l'action m'a rajeuni d'une dizaine d'années. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Béchou sera là dans 5 minutes. Vous êtes entré chez votre amie Madeleine Rollet et vous avez trouvé Monsieur Jacques Froment attaché comme un vulgaire saucisson. Vous vous étiez évadé comme le saucisson le pensait. Vous n'en savez pas plus. Mais le tableau ? Votre tableau, ma pauvre demoiselle, mais il est aussi vrai que je m'appelle Lupin et que le saucisson s'appelle Froment. Donc, ne soupçonnez plus cette chère Lisa Gherardini. C'est bien elle qui est accrochée sur le mur du musée. Quand je vous ai vus tous arriver chez moi, je me demandais ce qu'il pouvait bien manigancer, ce beau monsieur d'Averny qui m'avait dépossédé de mon nom. Que cherchait-il donc dans cette histoire? Je l'observais et je me disais, « Toi, mon bonhomme, tu vas prétexter un accident quelconque ou une panne et t'évaporer avec Mona Lisa sous ton paletot. » Je me demandais comment je pouvais brouiller les cartes et déjouer ses projets. Comme je m'amusais. Je vous racontais des histoires de scie en acier anglais. Je vous faisais avaler le cou du bois de peuplier. Je m'étonnais moi-même. Comment 3 grandes personnes pouvaient-elles gober une histoire aussi idiote? Monsieur Gabillon et vous-même, d'ailleurs, vous en saviez quand même assez pour reconnaître un faux d'un vrai, tout de même. Même ce Lupin de banlieue, le saucisson, en était capable. Non. Le maître avait dit, c'était comme ça. Et le coup de Dandelin, Là, j'avoue qu'il a fallu mettre toute ma vieille expérience en marche. L'expert était en voyage, j'ai pris sa place. Monsieur Gabillon s'est presque aperçu du truc. Un peu de sport, un bon régime, hop, le deuxième œuf est gobé. Un faux crâne bien verni, des grosses gouttes de sueur sur le front, troisième œuf avalé. Et voilà comment la pauvre Joconde est devenue une vulgaire planche à pain. Mon Dieu, que c'était drôle de voir ça! Je me sauve. J'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir, mademoiselle. Puis s'adressant au prisonnier. Quant à toi, si tu n'avais pas sorti ton couteau, j'aurais peut-être eu pitié de toi, et je t'aurais trouvé une place de clerc de notaire à Tunis. Mais maintenant, désolé, je n'ai pas de temps pour toi. Quand tu sortiras, n'essaie pas de te venger, et ne recherche pas le contact avec les personnes qui ont été mêlées à cette affaire. Adieu, Froment. Une auto se garait devant la maison. Le vénérable notaire se sauva par la cuisine et le garage. Isabelle était interdite. Froment l'implorait des yeux. Elle fit celle qui ne voyait pas. Béchou entra, le revolver au poing, trois hommes derrière lui, et s'arrêta net. « Mais que faites-vous là, mademoiselle ?» Elle haussa les épaules sans répondre. Il avisa le prisonnier couché sous la table, regarda la jeune femme avec incrédulité. Elle haussa à nouveau les épaules, d'un air de dire « Pensez ce que vous voulez, cela n'a aucune espèce d'importance. » Finalement, elle répéta mot à mot la déclaration que maître Ruspan lui avait demandé de faire au brigadier, expliqua que Lupin n'était pas Lupin, mais un vulgaire escroc du nom de Froment, et qu'il y avait sur la table un message chiffré qui l'intéresserait beaucoup s'il voulait mettre la main sur toute la bande. Béchou contempla le prisonnier. « Est-ce Lupin ? N'est-ce pas Lupin ?» C'était bien d'Averny, mais ce regard apeuré, cette mine déconfite, non, ça, ce n'était pas un Lupin. Les inspecteurs embarquèrent leurs colis et sortirent. Béchou examina le chiffon de papier et essaya de comprendre. Comme il n'arrivait pas à grand-chose, Isabelle vint à son secours. « Les points doivent être remplacés par des voyelles, monsieur Béchou, » expliqua-t-elle. « Je comprends, » dit-il, « mais je ne vois pas. » « Regardez ce mot, point, 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 st. Le seul mot qui puisse contenir trois voyelles avant la lettre s et t, c'est le mot ouest. Maintenant, cherchez un mot qui commence par deux voyelles et suivi de deux f. Il n'y en a qu'un, c'est le mot Eiffel. » Béchou comprit et déchiffra tout le billet. « Tour Eiffel, pilier ouest, le 22 avril à 3h30. »« Merci, mademoiselle. » Nous y serons, et en force, je vous l'assure. Entre nous, vous savez, ce Lupin ne m'avait pas l'air d'un vrai Lupin. Et puis d'ailleurs, il était trop jeune pour avoir son âge. Elle éclata de rire et se leva. Mais vous-même, vous-même. Tout va bien, monsieur Béchou, je suis ici de mon plein gré. Et le tableau? Sur son mur au musée, bien protégé. De sorte que... De sorte que je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos bons services. » Il était abasourdi, ne comprenant rien de toute cette histoire. D'un autre côté, il était bien content d'avoir mis la main sur ce brigand de Lupin, et encore plus que le brigand ne fût pas Lupin. Tout s'embrouillait dans son esprit, les vrais, les faux, les bons et les méchants. Il se retira, plein de compunctions maladroites.